Bonjour à tous. Nous allons parler d'un homme de Dieu que vous connaissez tous. Celui dont il est dit, il ne s'est plus élevé en Israël de prophète comme celui-ci que le Seigneur connaissait face à face. Alors c'est qui ? C'est Moïse, absolument. Moïse. 3 notices décrivent la particularité de Moïse dans l'Ancien Testament. Exode 33, verset 11. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Nombre 12, verset 6 à 8. Parole du Seigneur. Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me connaîtrai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, en vision mais sans énigme, et il contemple la forme même du Seigneur. Et le troisième, je vous l'ai dit au début, il ne s'est plus levé en Israël de prophète que Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Nous allons nous arrêter sur Moïse et sur la relation que Moïse a construite avec Dieu. Ou plutôt que Dieu a construit avec Moïse, c'est lui qui prend l'initiative. Moïse, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Cette expression souligne la proximité particulière entre les deux. Mais comment est née cette amitié? Qu'est-ce qui l'a structurée? Quel effet a-t-elle eu sur la vie et le comportement de Moïse? C'est ce genre de questions que je voudrais aborder avec vous ce matin. Et nous allons commencer par le commencement, à savoir par la naissance de Moïse. Moïse n'en a pas encore conscience, n'a pas conscience au début, mais les circonstances de sa naissance, et surtout les premières semaines de sa vie, sont marquées par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. À l'époque de sa naissance, tous les enfants hébreux mâles devaient être supprimés. Telle était la politique de Pharaon, roi d'Égypte, dictée par la peur de ces Hébreux, étrangers trop nombreux dans le pays d'Égypte. La peur d'étrangers trop nombreux, ça vous dit rien? Et la peur provoque des décisions au mieux idiote, au pire immonde, comme ce qui s'est passé à l'époque où le pharaon a voulu faire tuer tous les mâles qui naissaient. Moïse échappe au destin prévu par Pharaon, nous le savons, sa mère le cache au cours des premières semaines, puis il est déposé dans le Nil à l'intérieur d'un berceau bien étanche, sous la surveillance de sa sœur, et découvert par la fille de Pharaon, Moïse est adopté par elle, il échappe à la mort qui l'attendait. Le texte ne mentionne pas Dieu directement dans ses premiers mois de la vie de Moïse, et dans ce miracle de la survie de Moïse. Mais pour l'auteur du livre de l'Exode, nul doute que la main de Dieu a connu toute chose. Et que dès cette époque, Dieu préservait Moïse dans son amour, en vue de la mission qui serait la sienne. La suite, nous la connaissons. Moïse grandit. Devient adulte, il se rend compte, on ne sait pas comment, mais qu'il n'est pas seulement égyptien, mais qu'il est aussi hébreu. Et il s'aperçoit que les Hébreux sont soumis à de durs travaux. Et il se sent proche de ce peuple. Et quand il voit un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux, Moïse tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Il l'enterre. Moïse commence sa révolution. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau, il trouve deux Hébreux qui se battent, il intervient et il se fait jeter car on lui dit « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse a peur. Le roi d'Égypte apprend la chose, qu'il a tué un Égyptien, et Moïse est obligé de partir. Il est obligé de partir. Et il se retrouve dans le désert. Il rencontre une famille dont il épouse une des filles, Séphora. Et le texte, chapitre 2, se termine. Chapitre 2 se termine en disant: les Israélites gémissent et crient du fond de l'esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leur plainte, il se souvient de leur alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde ce qui se passe, il regarde les Israélites et il comprend leur situation. Et voilà, le décor est posé, les acteurs principaux sont introduits. La situation est décrite, hein, avec l'esclavage des Hébreux par les Égyptiens. Moïse est présenté. Et l'histoire va commencer, maintenant que le décor est planté, l'histoire va commencer au chapitre 3. La première dialogue entre Moïse et Dieu a lieu lorsque Dieu va appeler Moïse pour qu'il sorte, pour qu'il conduise le peuple et le sorte d'Égypte. Et Dieu va se révéler à Moïse. Je lis au chapitre 3 de l'Exode, au verset 1. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit : je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé, pourquoi donc ? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse ! Moïse ! Moïse répond : je suis là. Le Seigneur dit : n'approche pas du buisson, enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu prend l'initiative de cette rencontre, il va se révéler à Moïse. Il va se révéler à Moïse. Et il va le faire dans le quotidien de la vie de Moïse. Le boulot de Moïse, c'est de garder les moutons et les chèvres de son beau-père. C'est ce qu'il fait jour après jour. Et c'est pendant qu'il fait ça que Dieu se révèle. Dieu n'a pas besoin qu'on aille sur une autre montagne, ou dans un ashram, ou dans un temple, ou je ne sais pas quoi. Il vient nous rencontrer là où nous sommes, dans le quotidien de notre vie. Et il va y aller en douceur, puisqu'il commence par créer un phénomène étrange. Un phénomène étrange, mais pas forcément menaçant. Il y a une flamme dans un buisson, mais le buisson ne brûle pas. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre, mais ça ne fait pas peur. Parce que parfois, quand Dieu se montre, on a peur, hein, dans l'Ancien Testament. Mais là, on n'a pas peur, c'est juste curieux. Et Moïse s'approche parce qu'il est, justement, sa curiosité est attisée par ce qui se passe là. Il s'approche, et puis d'un coup, Dieu va lui parler. Du milieu du buisson, il l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Moïse répond, et le Seigneur lui dit: n'approche pas plus, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint, et il va se présenter. Dieu va se présenter. Dieu est poli, pour que Moïse sache qui il est, il se présente, et il se présente d'une manière que Moïse peut comprendre: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est intéressant parce que ça se passe en douceur, si vous voulez. C'est quand même un peu stressant pour Moïse parce que c'est quand même très inhabituel. Et il se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu, nous dit le texte. Mais le Seigneur va continuer à se présenter pour surmonter cette crainte que Moïse a au départ. Il va se présenter, il va surtout présenter son projet. Il a entendu les cris de son peuple, Il a vu la souffrance. Dieu dévoile quelque chose de ses sentiments à Moïse, de ce qui habite son être intérieur. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Je connais ses souffrances. Et deuxièmement, Dieu va dire son projet par rapport à cette situation. Je suis descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. Je continue un peu plus loin. Maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays des Israélites, mon peuple. Les choses sont dites avec beaucoup de manière très pédagogique. On pourrait dire que Dieu est un bon communicant. Il aborde Moïse avec respect et sensibilité. Il ne le rencontre pas d'une façon écrasante. On ne voit rien de sa majesté, de sa force, comme dans d'autres textes. Et d'ailleurs, après le premier moment de peur, Moïse se sent suffisamment à l'aise avec Dieu pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et il va dire « je ne suis pas d'accord » à plusieurs reprises. Il va commencer par dire « qui suis-je pour cela ?» Tu as vu mon CV ? Je n'ai pas le statut, je ne suis pas la bonne personne qu'il faut. Non. Dieu lui répond, mais je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Première réponse de Dieu à la première objection de Moïse. Mais Moïse continue en disant toujours, je n'ai toujours pas d'accord, et il expose une deuxième objection. Supposons que j'aille vers l'Israélite et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Demander le nom de quelqu'un dans la culture dans laquelle se trouve l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, demander le nom de quelqu'un, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste l'étiquette qu'on colle pour appeler quelqu'un de... une personne. Donner son nom, c'est dire quelque chose de profond, de personnel sur soi. Et Moïse essaye peut-être d'embarrasser Dieu en disant, mais s'il me demande quel est le nom, qu'est-ce que je vais leur répondre ? Mais Dieu va répondre. Et il va donner pour la première fois, dans l'Ancien Testament, il va donner pour la première fois le nom qu'il donne Yahvé en hébreu. Hein. C'est la première fois, en fait. Avant, c'était juste Dieu, ou le Très-Haut, ou le Tout-Puissant. Et là, d'un coup, on a comme... Et donc, c'est des noms qui veulent dire Dieu. Et là, on a comme le nom propre, si vous voulez. Le nom propre de Dieu. Il s'appelle Yahvé. Bon, c'est un nom qui est construit sur le verbe être. On ne sait pas trop comment le traduire. On trouve « je suis celui que je suis » ou « je serai qui je serai »,« je suis celui qui est », enfin, on ne sait pas exactement comment le traduire. Mais Dieu répond. Moïse pense embarrasser Dieu en disant « mais c'est quoi ton nom ?» Et Dieu se révèle d'une manière tout à fait particulière et donne son nom. Donne son nom. Et ensuite, Dieu rappelle. Donc Dieu dit « je suis celui qui je suis, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et tu leur diras encore « celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur, il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et en donnant cette deuxième précision, Dieu se lie de façon indissoluble avec son peuple en rappelant l'alliance qu'il y a eue. Il est le Dieu de l'alliance, le Dieu de la promesse. Malgré la réponse de Dieu, Moïse n'en a pas fini avec ses objections. Il dit, mais si j'y vais, les Hébreux ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Je n'ai pas la crédibilité qu'il faut pour ce boulot. D'accord ? Je n'ai pas la crédibilité qu'il faut. On ne va pas me croire, ils vont se marrer quand ils vont me voir. Ils vont me dire, de quoi tu causes ? T'es qui, toi ? Et Dieu va répondre en rendant Moïse capable de produire des signes miraculeux. Il peut changer son bâton en serpent et inversement. Il peut faire apparaître et disparaître la lèpre. Il peut changer l'eau du Nil en sang. Trois signes que Dieu donne à Moïse, que Moïse est capable de faire pour attester que Dieu est avec lui. Moïse a trouvé une quatrième objection. Tu sais, je ne suis pas doué pour la parole. Comme orateur, je suis nul. On ne sait pas exactement quel est le problème qu'il a. Peut-être qu'il n'est pas bon orateur, ou peut-être qu'il a un problème à la langue, on ne sait pas. Mais il n'est pas... Je ne suis pas doué pour la parole. Dieu va répondre en disant, en quoi tes problèmes de créature seraient-ils un problème pour moi, le Créateur ? En quoi tes problèmes de créature seraient-ils un problème pour moi, le Créateur ? Ouais, Moïse dit, je ne sais pas parler, déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et Dieu répond, qui a fait une bouche à l'homme ? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles, qui lui ouvre les yeux, qui le rend aveugle, est-ce que ce n'est pas moi le Seigneur ? Donc, c'est intéressant cette discussion parce que Dieu répond à chaque fois avec beaucoup de patience. Puis Moïse est à bout d'arguments. On est au chapitre 4, verset 14. Moïse dit, Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. J'ai plus d'arguments, mais je ne vais quand même pas y aller. TSM, tout sauf Moïse. Ou tout sauf moi. Pas moi. Non, s'il te plaît, non. Il faut des gens pour prêcher, pour présider. Non, pas moi. Il faut des gens pour... Non, pas moi. Quelqu'un d'autre, s'il te plaît. N'importe qui sauf moi. Et le texte nous dit que Dieu se fâche. Contre Moïse, et il lui dit, « Et ton frère, Aaron Lévite, il parle bien, je le sais. Le voilà, il vient à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie, parle-lui, etc. » Dieu se fâche, mais ça ne veut pas dire qu'il s'énerve. Ça veut juste dire qu'il met fin à ce dialogue. Et en même temps, il va quand même aider Moïse en disant, « Écoute, tu ne vas pas être seul, je t'envoie Aaron avec toi. » Comme ça, tu t'auras un peu moins peur, puisqu'il y aura Aaron, qui sera à ton côté. Et donc, Dieu s'impose, ou impose en quelque sorte à Moïse sa mission. Mais il continue à prendre soin de lui. Dans tout ce dialogue, Dieu empêche Moïse de se replier sur lui-même. Il veut que Moïse se lève, prenne de l'assurance, et pour utiliser le langage d'aujourd'hui, qu'il réussisse sa vie en accomplissant sa vocation. Dieu agit comme un ami, car il aime Moïse et prend soin de lui. Et cette discussion le montre bien. Ce n'est pas seulement de l'amitié au sens de bons sentiments, c'est de l'amitié au sens où Dieu veut prendre soin de Moïse et construire avec lui une bonne relation. Premièrement, Dieu est un ami car il n'abuse pas de sa position. La discussion se fait comme si deux copains parlaient ensemble. Moïse a un peu peur au début, mais tout de suite après, il est capable de discuter avec Dieu sans se laisser stresser, sans se dire « Ouh là, qu'est-ce que je suis en train de faire en parlant avec Dieu ?» Non, il parle avec Dieu comme un ami, comme nous dit le texte. Il est capable de contester respectueusement l'appel de Dieu et de le faire assez longtemps. Et ça nous rappelle que les disciples de Jésus dans l'Évangile deviennent aussi petit à petit les amis du Christ. Et que Jésus lui-même leur dit à un moment, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Quelque chose se crée qui produit de l'amitié. Et qui fait que le décalage qu'il peut y avoir entre Dieu et Moïse, ou entre le Christ et nous, entre Jésus et nous, n'est pas un problème qui nous empêche d'avoir une relation de type amical. Parce que Dieu est suffisamment proche de nous pour qu'on ne se sente pas écrasé par lui. C'est chic de sa part. Parce que sinon, on n'arriverait pas à avoir une relation avec lui. Mais Dieu se dépouille. Il se fait homme en Jésus-Christ. Il se dépouille de sa gloire, de sa majesté, de tous ces trucs qu'on ne pourrait même pas regarder sans mourir tout de suite. Dieu se dépouille de toutes ces choses-là pour qu'on ait une relation avec lui. Et une relation de type amical. Dieu est un ami car il écoute et il prend soin de Moïse, il répond à ses arguments. Il accepte que Moïse conteste. C'est quand même sympa d'avoir un Dieu qui accepte qu'on soit pas d'accord avec lui. Il accepte, il compte, et il discute avec Moïse, il argumente, sans tout de suite faire appel à l'argument d'autorité du genre « Je suis Dieu, tu t'écrases et tu fais ce que je dis ». Pas du tout. Dieu prend aussi au sérieux les objections de Moïse et il y répond. Dans l'entretien, Dieu accepte de se dévoiler en donnant son nom. Ce que Moïse lui demande. Peut-être qu'il se dévoile plus que ce qu'il avait prévu au départ, on ne sait pas. Mais la relation est ouverte. Moïse peut dire sa fragilité, ses doutes, ses faiblesses, ses craintes. Et Dieu continue à l'accueillir avec tout cela. Le temps qu'on lit les quelques versets qui nous racontent ça, il y en a une trentaine peut-être. Ça prend 5-6 minutes ou 7 minutes à lire, mais la discussion a sûrement duré beaucoup plus longtemps. Nous, on a juste un résumé. Dieu a pris le temps qu'il fallait pour répondre aux objections de Moïse, pour le rassurer et pour l'encourager. Dieu est aussi un ami car il veut élever Moïse et ne pas le laisser enfermer dans ses refus et l'image négative que Moïse a de lui-même et de ses capacités. Pourquoi Moïse dit-il « Je ne suis pas capable, je ne suis pas la bonne personne, envoie quelqu'un d'autre. » Pourquoi ? Oui, mais pourquoi ?
Parce qu'il a tué un Égyptien, mais
s'il
retourne en Égypte...
Mais tu as un Égyptien, s'il retourne, ça ne va pas bien se passer, oui. Mais c'est intéressant, ça, cette histoire d'Égyptien, parce que Moïse peut dire « J'ai déjà essayé, et j'ai lamentablement foiré. » C'est ça l'histoire de l'Égyptien tué. J'ai déjà essayé de faire un truc pour mon peuple, j'étais tellement nul que ça s'est mal passé, j'ai dû partir, je suis en échec total. On sent Moïse pas du tout bien dans son truc, parce qu'il est marqué par ça. Et en plus c'est l'événement qui a... Il était bien vu à la cour, il y a une bonne place et tout, il se retrouve dans le désert à garder des moutons, c'est pas génial comme évolution de guerrière. Et il s'est lamentablement planté. C'est dur à vivre quand même. C'est pas juste un plantage qui est une parenthèse dans notre vie. C'est un plantage qui a déterminé son existence. Et qui le détermine depuis 40 ans. Et donc Moïse, il se dit, oh, je suis vraiment trop nul, quoi. Vous le sentez, ce truc, ou pas dans le texte ? C'est important parce que Dieu rencontre des êtres humains vivants comme nous, avec leur histoire, avec leurs doutes, avec leurs espoirs, avec leur... Ouais, je veux dire. Et dans ce texte, c'est assez génial. Moïse a dû fuir l'Égypte et s'exiler dans le désert. Il a lamentablement échoué. Il a souffert, probablement, de devoir partir. De se retrouver seul, ou à peu près. Il a trouvé une famille dans laquelle il a pu s'intégrer, heureusement, mais quand même. Tout ce qu'il a fait au début du chapitre 2... En tuant l'Égyptien et en essayant d'intervenir parmi les Hébreux, ça a lamentablement planté. Comment pourrait-il conduire le peuple alors qu'il n'a même pas réussi à mettre deux personnes du peuple d'accord, vous voyez ? Vous imaginez le truc, quoi ? Et donc Moïse se sent totalement incapable de changer les choses. Et quand Dieu lui dit « Vas-y, vas-y, avec toi, tout ça, ça remonte à la surface », et il trouve plein de bonnes raisons pour ne pas y aller. La leçon de ça, c'est que quand nos vies sont marquées par des échecs, des choses qui n'ont pas marché, et qui parfois continuent à nous habiter, nous avons un Dieu qui veut nous aider à surmonter les peurs qui nous paralysent, qui veut nous élever, nous guérir, nous libérer. Nous libérer des peurs, nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement comme il nous le demande. Voilà ce que nous dit le texte. Nous avons une histoire, chacun. Nous avons probablement eu des blessures dans notre histoire, de toutes sortes. Peut-être dans notre famille, peut-être dans notre église. ailleurs. Nous sommes marqués par des expériences qui nous ont blessés et qui nous limitent dans notre vie et qui parfois nous poussent au repli sur nous-mêmes ou sur notre petit monde ou notre petite famille. Dieu veut nous libérer de ces choses-là. D'abord pour notre bien, et puis ensuite pour qu'on puisse vivre comme il nous le demande de mieux en mieux. Et il le fait comme un vrai psy, c'est-à-dire il le fait par la parole. Il discute. Il est bon pour nous de méditer l'amitié qui s'est construite et qui a uni Dieu à Moïse, parce que c'est ainsi que Dieu nous aime, nous aussi. C'est ainsi qu'il nous aime. Et on a besoin de se rappeler comment Dieu nous aime, parce que d'abord ça nous fait du bien à nous-mêmes, puis deuxièmement, ça nous aide à mieux nous aimer les uns les autres. Amen.